Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, L'étranger d'Albert Camus. Le roman se situe à Alger en 1942, c'est-à-dire bien avant que ne débute, en 1954, la guerre qui conduira en 1962 à l'indépendance de l'Algérie. Ainsi, le roman ne donne aucun signe d'une révolte des Algériens contre les Français qui vivent dans le pays et ne comporte aucune allusion historique. En fait, en Algérie, deux sociétés vivent et se côtoient, mais sans réellement se mêler. Les indigènes, kabyles ou arabes, et les colons français, les pieds noirs, dont tous sont loin d'être de riches propriétaires terriens. Le personnage central du roman, Meursault, est un modeste employé de bureau, et ses fréquentations sont tous des gens modestes. Meursault reçoit un télégramme annonçant que sa mère vient de mourir. Il se rend en autocar à l'asile de vieillards situé près d'Alger. Veillant sa mère morte toute la nuit, il assiste le lendemain à la mise en bière et aux funérailles sans avoir l'attitude attendue d'un fils endeuillé. Le lendemain de l'enterrement, Meursault décide d'aller nager à l'établissement de bain du port et y rencontre Marie, une dactylo qui avait travaillé dans la même entreprise que lui. Le soir, ils sortent au cinéma et passent le restant de la nuit ensemble. Le lendemain matin, son voisin, Raymond Saintès, proxénète notoire, lui demande de l'aider à écrire une lettre pour dénigrer sa maîtresse arabe envers laquelle il s'est montré brutal. Il craint des représailles du frère de celui-ci. La semaine suivante, Raymond frappe et injurie sa maîtresse dans son appartement. La police intervient et convoque Raymond au commissariat. Celui-ci utilise Meursault comme témoin de moralité. En sortant, il invite Marie et lui à déjeuner le dimanche suivant à un cabanon au bord de la mer qui appartient à un de ses amis, Masson. Le dimanche midi, après un repas bien arrosé, Meursault, Raymond et Masson se promènent sur la plage et croisent deux Arabes, dont le frère de la maîtresse de Raymond. Meursault, apprenant que Raymond est armé, lui demande de lui confier son revolver pour éviter un drame. Une bagarre éclate au cours de laquelle Raymond est blessé au visage d'un coup de couteau. Plus tard, Meursault, seul sur la plage, accablé de chaleur et de soleil, rencontre à nouveau l'un des Arabes qui, à sa vue, sort un couteau. Aveuglé par la sueur, ébloui par le reflet du soleil sur la lame, Meursault tire de sa poche le revolver que Raymond lui a confié et tue l'Arabe d'une seule balle. Puis, sans raison apparente, il tire quatre autres coups sur le corps inerte. Meursault est arrêté et questionné. Il ne manifeste aucun regret, mais de l'ennui. Lors du procès, on l'interroge davantage sur son comportement lors de l'enterrement de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l'hilarité de l'audience. La sentence tombe. Il est condamné à la guillotine. Avant son départ pour la mort, Meursault finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit et même souhaiter que le jour de son exécution de grandes foules qui le haïssent soient au rendez-vous. La mort n'est-elle pas finalement ce qui transforme une vie absurde en destin ? Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovi, sur la côte orientale de l'Algérie, à proximité de Annaba, dans le Constantinois, de parents pieds noirs. La famille est analphabète. Son père est ouvrier agricole. Il approfondit la lecture et l'écriture auprès de son employeur négociant en vin d'Alger. Il décédera en 1914 lors de la Première Guerre mondiale. Sa mère, d'origine espagnole, est femme de ménage, sourde et illettré. Orphelin de père pour fait de guerre, il est fait avec son frère, pupille de la nation. Il passe son enfance dans les quartiers pauvres et populaires, mais grâce à son instituteur, Louis Germain, il est reçu au Grand Lycée d'Alger. Brillant élève, il poursuit des études de philosophie en tant que boursier à Alger. Jean Grenier, son professeur d'Hippocagne, l'éveille véritablement à la littérature. Il fréquente les jeunes écrivains de l'école d'Alger comme Emmanuel Robles. C'est un passionné de football. Dans les années 1930, on lui diagnostique une tuberculose qui le conduira souvent en cure. Albert Camus commence à écrire pour le théâtre et dans la presse, tout en étant engagé politiquement dans un premier temps aux côtés des communistes. Rentré en France en 1940, il entre dans la Résistance et collabore au journal Combat. Il se met à travailler sur ses trois ouvrages du cycle de l'absurde. L'étranger, un roman, Le mythe de Sisyphe, un essai, et Caligula, une pièce de théâtre. Son succès éditorial se confirme avec la sortie en 1947 de son roman La Peste, suivi 2 ans plus tard, en 1949, par la pièce de théâtre Les Justes. Intellectuel engagé, Camus participe à tous les combats de son époque. La publication en 1951 de L'homme révolté marque sa rupture avec Jean-Paul Sartre et le courant marxiste. Il développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurde de la condition humaine. Dans la compréhension de ce que Camus va devenir, il y a aussi ça, la confrontation fondamentale avec la mort. C'est ce qui le pousse vers le sens, l'idée qu'il faut trouver à notre vie un sens qui ne peut pas être détruit par la mort. Et c'est à la recherche de ce sens qu'il est parti en littérature. Sur la question de l'Algérie, qui fut l'une des plus grandes préoccupations de sa vie, il a gardé une position pacifiste, sans jamais parler d'indépendance immédiate, plaidant pour une Algérie multiculturelle, fédéraliste et pluraliste, avec une émancipation progressive. Une position rejetée par la plupart des forces politiques de l'époque. En 1940, en seconde noces, il épouse Francine Faure, mère de ses jumeaux Catherine et Jean, nés en 1945. Il a eu plusieurs liaisons amoureuses, notamment avec l'actrice Maria Cazares, 1922-1996, dont la correspondance de 1000 pages vient d'être publiée. En 1957, Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Il meurt le 4 janvier 1960 à l'âge de 47 ans dans un accident de voiture. Le 5 janvier a lieu la levée de la dépouille pour être transporté au cimetière de Lourmarin, où il est inhumé, dans cette région provençale que lui avait fait découvrir son ami, le poète René Char. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller. Et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain. Quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet, et quand je me suis réveillé, j'étais assis contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit « oui » pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. » J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Il a ajouté « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont de notre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'était un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche. Sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. À un moment donné, nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron. Les pieds y enfonçaient et y laissaient ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, le chapeau du cocher, en cuir bouilli, semblait avoir pétri dans cette boue noire. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs. Noir gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublaient le regard et les idées. Je me suis retourné une fois de plus. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur, mais je ne l'ai plus aperçu. Je l'ai cherché du regard et j'ai vu qu'il avait quitté la route et pris à travers champs. J'ai constaté aussi que devant moi la route tournait. J'ai compris que Pérez, qui connaissait le pays, coupait au plus court pour nous rattraper. Tout s'est bien passé ensuite, avec tant de précipitation, de certitude et de naturel, que je ne me le souviens de plus rien. Une chose seulement, à l'entrée du village, l'infirmière déléguée m'a parlé. Elle avait une voix singulière qui n'allait pas avec son visage, une voix mélodieuse et tremblante. Elle m'a dit « Si on va doucement, on risque une insolation, mais si on va trop vite, on est en transpiration et dans l'église, on attrape un chaud et froid. » Elle avait raison, il n'y a pas d'issue. J'ai encore gardé quelques images de cette journée. Par exemple, le visage de Pérez quand, pour la dernière fois, il nous a rejoints près du village. De grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues. Mais à cause des rides, elles ne s'écoulaient pas, elles s'étalaient, se rejoignaient et formaient un vernis d'eau sur un visage détruit. Il y a encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de Pérez, on eût dit un pantin disloqué, la terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche des racines qui s'y mêlait, encore du monde, des voix, le village, l'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur, et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.